Bienvenue chez Perspectives de médiation, le podcast dédié à la médiation et à la résolution des conflits. Je suis Pascal Gimperli, médiateur basé en Suisse. Avec nous, selon les épisodes, Joëlle Dunoyer, rédactrice en chef de la revue Intermédiaire, et Christelle Schirmer, membre de la rédaction.
À travers nos émissions, nous contribuons au développement de la médiation et des modes alternatifs de résolution des conflits.
Vous allez découvrir des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des échanges et discussions variés avec des invités de marque.
Nous vous proposons ces épisodes en partenariat avec la revue Intermédiaire, un semestriel en version papier et numérique, spécialisé en prévention et gestion des conflits.
Pour ne rien manquer et pour nous soutenir, abonnez-vous à notre chaîne et partagez nos podcasts.
Vous pouvez aussi laisser un commentaire pour partager vos avis ou pour poser des questions.
Allons-y.
Bonjour à tous. Bonjour Pascal.
Salut Joël.
Tu vas bien?
Ça va, très bien, merci. Toujours plaisir de discuter avec toi.
Toujours avec grand plaisir. Pascal, aujourd'hui, on va aborder la question de l'intelligence artificielle, la grande question que tout le monde se pose, bien sûr, et surtout les médiateurs. Nous sommes confrontés aujourd'hui à cette grande avancée de l'intelligence artificielle. Alors, est-ce que c'est une alliée? Est-ce que c'est en fait un concurrent? Est-ce que c'est un frein à la médiation pour les médiateurs en tout cas? Ou est-ce que ça peut être un allié justement et un outil précieux? Et je vais te poser quelques questions parce que moi j'ai beaucoup d'interrogations sur le sujet. Je débute en fait en utilisant l'IA et je sais que toi, tu l'as déjà utilisé à maintes fois. Tu as même créé un outil dont tu vas nous en parler là tout à l'heure. Et je me disais que ça pouvait être intéressant d'avoir ton retour, voilà, d'expérience, bons et les mauvais côtés de l'IA, et puis comment on peut l'utiliser au mieux, voilà, tout en se protégeant et en protégeant les médias.
Avec plaisir.
Alors, est-ce que tu peux nous dire déjà, avant tout, qu'est-ce qu'on peut faire, voilà, avec l'intelligence artificielle, ChatGPT ou autre, qu'est-ce que ça, comment ça peut être utile pour nous, médiateurs.
Peut-être un principe de base qu'il faut adopter pour, parce que moi-même, souvent j'oublie, on est encore dans la pensée d'avant l'existence de l'IA, il faut vraiment le considérer comme un assistant. C'est-à-dire, c'est un assistant qui est là, à qui tu peux en gros tout demander, que ce soit, enfin, dans ce cas-là, peut-être même expert, hein, dans une certaine mesure, tu peux poser des questions techniques. Mais surtout, tu peux demander des tâches à faire. Tu vois, c'est comme si tu demandais à un assistant de générer une image, de corriger un texte, de rédiger un texte, de tout ce qu'on peut imaginer, de trouver une solution. Finalement, dans le travail de bureau, hein, on ne parle pas de la robotique et encore tout un autre domaine, mais dans le travail de bureau, où finalement, les choses se passent en grande partie sur l'ordinateur, enfin, tout ce qui est ordinateur, parce que l'IA, en fait, elle s'adapte à l'humain. Donc, je pense que le terme intelligence artificielle, intelligence, il est quand même bien choisi. On peut dire qu'il est mal choisi parce que ce n'est pas humain, mais on peut dire aussi que c'est bien choisi parce que ces outils-là sont faits pour interagir avec l'humain. La grande avancée, c'est ça. Parce que si avant, tu voulais développer un outil, par exemple en ligne, si tu veux programmer un site web, tu dois connaître le programme de langage, le langage de programmation. Donc, en fait, tu dois apprendre une autre langue. Mais aujourd'hui avec l'IA, ça, c'est plus le cas. En fait, tu parles comme si tu parlais à un humain, soit texte, soit aujourd'hui même vocal. Et à mon avis, c'est ça le grand progrès. Et puis, ça se passe sur ordi. Donc, tout ce que tu peux faire sur ordi, tu peux parler comme si tu parlais à un humain. C'est pour ça que je dis, il faut vraiment se mettre en tête, c'est comme un assistant, tu demandes tout ce que tu veux. Après, ça va aussi avec tous les défis qu'on a avec des assistants humains. Typiquement, je sais pas, ils font des erreurs, parfois ils hallucinent, et surtout ils veulent toujours
Il
plaire.
bug. Oh non.
Parfois ils bug. Alors l'IA, elle est toujours très rapide, c'est quasiment dans l'immédiat, donc ça on n'a pas avec les assistants humains. Mais aussi, par exemple, les côtés négatifs, parce qu'il veut toujours plaire, donc tu as toujours une réponse avec l'IA, elle n'est pas toujours bonne, elle n'est pas toujours juste. Donc il faut contrôler, de nouveau, un peu comme avec un assistant humain.
D'accord, donc c'est une aide, c'est un assistant comme tu dis, mais attention quand même, il peut y avoir des erreurs, il faut rester vigilant. Donc c'est quelque
Absolument.
chose qui va s'adapter en fait à nous, professionnel, expert,
fait, si tu veux,
mais avec des limites quand même.
avec des limites. Si je me permets le terme, après, ça dépend en fait comment. Là, moi, quelque chose que j'ai appris aussi avec l'IA, c'est que j'ai appris franchement à mieux communiquer, dans le sens à être plus clair. Parce
Intéressant.
que si tu m'excuses le terme, mais on dit une parole qu'on utilise dans le travail de l'IA, c'est shit in, shit out. En gros, si tu fais une mauvaise entrée, une mauvaise demande, les résultats vont être mauvais.
Pas être
Donc,
mauvais.
mieux tu formules ta demande, de nouveau comme un assistant, hein,
Ça s'apprend aussi,
si tu
quelque
dis
part.
une phrase qui n'est pas très claire en assistant, tu auras un résultat XY qui va faire pas du tout ce que toi tu as imaginé. Et là, c'est la même chose. Donc, mieux tu formules ta demande, mieux sera ton résultat.
Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse attention à comment on demande, en fait. Il faut bien
Absolument.
formuler les questions. Il faut bien réfléchir en amont. Qu'est-ce qu'on attend? Quel est notre objectif, en fait? Et ce qu'on veut ressortir de meilleur de l'intelligence artificielle.
Donc, tu dois dire dans quel domaine, qu'est-ce que tu veux, quel est le format des résultats. Enfin, plus tu donnes d'infos, mieux sera ton résultat.
Ouais, ça c'est intéressant parce que c'est vrai que donc ça veut dire qu'il faut être patient au début pour maîtriser petit à petit, en fait, ça se maîtrise et plus on va maîtriser l'outil, mieux on va avoir des résultats qui vont être à la hauteur de nos attentes.
Donc, en fait, ce n'est pas la machine qui m'a compris. C'est comme ce n'est pas l'assistant qui m'a compris dans la vie réelle avec des vrais humains. C'est moi qui ai mal posé la question.
On n'est pas au stade encore de qu'on n'a pas besoin de formuler en fait la question, il va comprendre tout de suite.
Alors
On n'est
ça,
pas
il y
encore
en a qui
arrivé
travaillent
là,
là-dessus,
hein?
il y en a qui travaillent
Donc
là-dessus, mais non,
attention.
ça sera un prochain podcast.
Et
Là, je serai beaucoup plus réticent que ce qu'on discute aujourd'hui.
on verra, hein? Comment tu utilises en fait, je sais pas, qu'est-ce que tu utilises déjà? Par exemple, en médiation, est-ce que tu as déjà eu, ben je sais que oui, qu'est-ce que tu utilises comme outil? C'est ChatGPT, autre chose?
Oui, alors en fait, ma recommandation, ça serait de se focaliser, surtout pour les personnes qui peut-être débutent, se focaliser sur un outil et de l'utiliser bien, parce qu'il y a tellement d'outils pour tout aujourd'hui. Et après, c'est une question de budget aussi, parce que chaque fois, tu as un abonnement, on est souvent autour des 20 francs par mois. Alors oui, moi, j'utilise ChatGPT, c'était ce qui est sorti, moi, ça m'intéressait, je suis allé voir, à un certain moment, je fais l'abonnement payant, etc. Après, j'utilise aussi Gemini de Google parce que l'avantage, d'ailleurs, ça maintenant, ChatGPT va le faire aussi, ils viennent de communiquer là-dessus, mais il s'intègre dans les solutions Google. Donc, tu peux, si par exemple, tu utilises les mails de Google ou le Google Drive, le disque dur, enfin, les fichiers sur Google. Tu peux directement, sur l'utilisation du fichier, sur l'explorateur de fichiers, tu peux demander des questions, tu peux poser des questions, analyser. Donc, ça s'intègre dans les outils pour les gens qui utilisent Google, qu'ils utilisent déjà. Ça, c'est une simplification. Après, Google, pour l'utilisation, comme je fais sur ChatGPT, je ne sais pas si. Moi, je suis moins convaincu. Sur l'intégration dans les outils existants, je pense que c'est vraiment très utile pour. Mais sur poser des questions, avoir des résultats, mon expérience, c'est que pour moi, c'est un peu moins utile. Après, il y a aussi Copilot de Microsoft qui est dans Word. Donc, c'est un document Word, tu l'as directement là, tu peux l'utiliser. Pour moi, ça fait partie de l'abonnement que j'ai de toute façon chez Microsoft. Donc, ce n'est pas un abonnement plus.
Comme avec Google, je suppose, non? C'est pas des trucs en plus.
Alors, non, c'est chaque fois à part. Ouais. Donc, avec Microsoft Copilot, ça c'est en plus. Mais si tu as l'abonnement, moi j'ai la version Microsoft, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais là, Copilot, il en fait partie d'Office. Donc, je vais pas racheter en plus. Et puis, Google, franchement, à un certain moment, ils m'ont eu. Je ne sais pas à quel moment, j'ai vu tout d'un coup, j'ai une facture Google Gemini. Je me dis, ah,
Surprise.
tiens, à quel moment j'ai cliqué où? Et puis, comme j'ai vu que c'est utile,
Ce sont les travers, voilà.
Oui, alors là, franchement, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais quand j'ai vu, je me dis, bah, du coup, puisque je l'essaye, et puis je trouvais que c'est utile, donc je l'ai gardé. Voilà.
Donc, comment tu l'intègres en médiation? Voilà, la question,
En
c'est
médiation, alors,
comment tu l'utilises en
oui,
tant que dans ta pratique, en fait, voilà, de médiateur.
alors il y a, disons, la pratique et je vais appeler ça la gestion d'un bureau de médiation, mais là, ça ne se diffère pas de n'importe quelle autre entreprise. Hein. Tu peux utiliser
Administratif,
pour
gestion administrative.
administrative, voilà, gestion administrative. Et puis là, il y a plein, plein, plein de solutions. Tu peux automatiser des tâches. Tu as des tâches comme, je sais pas, la comptabilité, tu scannes une quittance, l'intelligence, elle capte ce que c'est qu'une quittance, elle va tout de suite mettre ça dans la bonne case, dans la compta, des choses comme ça. Tu reçois un mail, l'IA, elle analyse, et puis elle va te transformer ça en tâche sur ton agenda. Enfin, là, c'est à l'infini. Tout ce que tu peux imaginer, en gros, aujourd'hui, tu peux le faire. Mais à mon avis, mon expérience là, ça, j'en fais pas beaucoup, honnêtement, parce que je trouve que ça reste encore compliqué. Alors, il y a des outils assez puissants. Alors, le plus connu, c'est Zapier. Après, il y en a d'autres qui ont d'autres modèles, parfois un peu moins chers avec moi. Ben, voilà, ça, c'est. Mais ça reste relativement compliqué, je trouve, pour mettre en place. Soit il faut vraiment engager quelqu'un qui le fait, mais si on veut le faire tout seul, surtout, ce qu'il faut, il faut voir quelles sont la règle, je dirais, c'est quelles sont les tâches très répétitives et avec une grande quantité, soit que c'est une tâche qui est vraiment très répétitive tous les jours, ou bien avec une grande charge de travail, même si c'est une fois dans l'année, mais c'est une énorme charge de travail sur 5 jours, là, ça vaut la peine de voir. Pour les petites tâches, à mon avis, la mise en place, elle est souvent quand même très compliqué, puis à des coûts, souvent ça vaut pas la peine. En tout cas, mon expérience. Donc, les tâches qui sont très répétitives. Après, il y en a qui disent les tâches faciles. Moi, je n'en suis pas forcément convaincu parce que l'IA est quand même, elle peut faire des tâches aussi compliquées au niveau de l'analyse. Pour moi, hein, parce qu'on parle de l'IA. AGI, comment ça s'appelle ça? Artificial General Intelligence, donc l'intelligence générale, qui veut dire qu'elle est sur tous les plans mieux que l'humain. Alors ça, on n'y est pas, mais par secteur, on y est depuis longtemps. Si tu regardes l'IA qui a battu, je ne sais plus quel champion du monde
Oui,
en échec, la machine est mieux que nous. Enfin, dans beaucoup de domaines, donc en fait, on est déjà à ce niveau-là. Par secteur. Maintenant, il n'y a pas une qui fait tout, tous les secteurs. Probablement, ça viendra. Donc voilà, pour les tâches, là, il y a beaucoup de choses. C'est peut-être pas l'objet aujourd'hui forcément de la discussion. Ça, c'est comme toute entreprise, on peut faire beaucoup de choses. Après, plus spécifiquement pour la médiation, alors ce qu'on peut faire, là, moi, je ne l'ai pas encore. Je compte développer un outil là-dessus parce qu'il y a les protections des données qui deviennent très vite très importantes. Tu peux, par exemple, utiliser pour analyser des dossiers. Dans notre bureau, par exemple, on fait des divorces. Donc, tu peux théoriquement, si tu as un système protégé, mais justement, ChatGPT, ce n'est pas protégé, les données, ça peut partir, ça sera analysé, ça sera utilisé pour l'entraînement de la machine, etc., etc. Donc, ça, tu peux pas utiliser les données dans une. Alors, tu peux faire quelque chose de local. Ça, de nouveau, je pense qu'il faut le faire avec un expert. Tu peux avoir une solution qui tourne purement localement, qui a les mêmes capacités, mais qui n'est pas connectée à Internet, qui ne va pas alimenter une machine ou la protection de données. On appelle ça en anglais on-premise, c'est-à-dire ça fonctionne chez toi localement. Et là, tu peux. Alors, moi, je l'ai testé avec un dossier fictif. Nous, pour faire des tests, on a un dossier fictif de clients. Et puis là, tu peux, par exemple, saisir les données, tu télécharges, et puis tu poses des questions sur le dossier. Tu peux dire, je sais pas, tu peux dire, nous, on a besoin parfois d'extraire des données pour dire, voilà, quel est le salaire cumulé des deux, quelle est la date anniversaire de l'enfant, ou tu peux même proposer, au vu du dossier, qu'est-ce que tu proposais pour l'organisation de la garde. Après ça, c'est plus difficile parce que ça, il y a beaucoup d'interprétations. Mais donc là, alors ça, nous, on ne le fait pas parce qu'on n'a pas encore d'outils protégés.
Vous avez fait
Mais.
des essais, hein, si je comprends bien.
Comment?
Vous êtes au stade des essais. Vous faites un petit peu des essais.
Alors là, je fais les essais avec un dossier fictif, justement.
Voilà.
Alors, il y a ça, la gestion de dossier. Tu peux aussi. Et ça, c'est facile parce que tu peux les faire complètement anonymisés. Hein. Au lieu de donner les vrais noms, tu donnes des noms fictifs, tu anonymises, comme tu le fais en intervision, hein, tu anonymises complètement le cas et tu peux expliquer le cas, par exemple, à ChatGPT. Donc, encore une fois, comme je disais avant, moi, je pense que la recommandation, c'est d'utiliser un outil et puis l'utiliser à fond plutôt qu'avoir éparpillé partout. Et donc, tu peux l'expliquer, tu peux dire, voilà la situation, voilà le contexte, on a eu une séance de médiation, voilà ce qui s'est passé. Et puis, à partir de là, tu peux faire une intervision, si tu veux, avec ChatGPT. Donc, aujourd'hui, tu peux même parler. Il y a la solution où tu parles, il te répond par l'audio. Tu peux dire, voilà ce qui s'est passé la dernière fois. Qu'est-ce que tu me proposes pour débuter la médiation la prochaine séance? Et les gens maintenant, peut-être qui nous écoutent, qui disent, mais non, moi, je ne fais pas confiance à la machine. Oui, alors il faut toujours, ça, c'est une règle de
Une
base. Si,
proposition. On n'est pas
voilà, c'est une
obligé de suivre.
proposition. C'est à prendre ou à laisser. C'est à toute façon, il faut tout contrôler. C'est la différence avec, je veux dire, entre guillemets, l'ancienne technologie qui, on appelle ça, basée sur les règles. Ça veut dire, tu définis, il y a une entrée et l'algorithme,
Monique.
il est fixe, il produit une sortie. Et c'est toujours la même. Ça change jamais. Tu fais une entrée X, la sortie sera Y. Et toujours, ça change jamais. Donc, tu sais exactement selon l'entrée ce que tu as en sortie. Avec l'IA, tu n'as pas ça. Tu fais une entrée, même les experts, ils ne savent pas, ils ne peuvent pas t'expliquer d'où vient la sortie. En fait, c'est un jeu de, sans aller dans le détail, mais c'est un jeu de probabilité. C'est ça que pour l'entraînement, la machine, elle a toutes les données qu'elle a pu récolter sur le web, sur je ne sais pas où. Et puis, c'est une question de probabilité. Puisque j'ai ça, quelle est la probabilité que le résultat sera ça? Mais la probabilité, elle change en fonction de, voilà. En fait, tu n'es jamais sûr vraiment du résultat que tu as en fonction de l'entrée. Donc, il faut toujours vérifier, contrôler. Ça, c'est une règle très, très importante.
Et donc, elle peut te donner, en fait, te faire une proposition. On dirait.
Voilà. Et puis tu l'aimes ou tu l'aimes pas, hein, comme en interview d'ailleurs.
Est-ce que
Hein,
tu as trouvé des fois des réponses intéressantes, des propositions qui t'ont plu et que tu as dit, oui, c'est intéressant, je vais faire ça.
sans doute, oui. Non, non, ça donne des idées. Si c'est pas, elle va peut-être pas te dire, parfois elle peut te dire, mais tu peux commencer la séance avec telle question. Tu dis, non, mais en fait, ça va pas. Mais là, ce qu'il te propose, ça te donne une idée. Tu vois, ça donne une piste à poursuivre.
Des fois, on peut être en fait face à des vraiment situations très complexes, avec beaucoup d'interférences, et puis ça bouge, ça change tout au long de la médiation. Ce n'est pas figé, ce n'est pas une séance.
Oui.
Et du début jusqu'à la fin, des fois, mais il y a des transformations, il y a des éléments aussi nouveaux qui entrent en jeu. Donc ça peut être intéressant au fur et à mesure de se dire, bon, bah tiens, comment on peut se faire aider en fait. Donc pour toi, c'est vraiment une aide, c'est un
Oui.
plus qu'on peut prendre, à prendre ou à laisser, c'est une obligation.
Après, je pense que ça, beaucoup de gens connaissent, beaucoup de gens utilisent ça pour la formulation. Si t'as, je sais pas, tu fais une convention à
Des
la fin.
questions. Oui. Par exemple, pour les interviews. Moi, je peux utiliser ça des fois pour la retranscription des interviews, pour, tiens, quelles questions je peux poser, qu'est-ce que ça peut être pertinent. Ça peut être intéressant, en effet. Ouais.
Oui, exactement. Donc, il faut voir ça comme une assistance.
Mais il y a le facteur humain quand même qui est important. Il faut repasser par là. On ne
Oui.
peut pas compter à 100% sur, d'après mon expérience à moi, hein, après, je
Ouais.
ne sais pas ce que tu en penses toi, mais compter 100% sur l'IA, pour l'instant, c'est...
Écoute, c'est de mieux en mieux. Ça dépend de la question que tu poses. Tu peux aussi, il y a des solutions qu'on appelle RAG. RAG, ça veut dire que c'est comme si tu donnais des instructions très précises. Tu dis, par exemple, je veux que ta réponse se base uniquement sur cette base de données. Tu vois, tu donnes des documents, des instructions, des guides, et tu dis, la réponse, elle doit se limiter à ça. Comme ça, il ne va pas chercher sur Internet. Donc là, tu es quand même très sûr du résultat qui correspond à ce que tu veux.
Tu as évoqué tout à l'heure, en passant comme ça, la protection des données et puis la confidentialité.
Oui.
C'est une question que tout médiateur, même sans l'IA, se pose. Est-ce qu'il y a, surtout en visio, avec les techniques, voilà, aujourd'hui les technologies, on fait pas mal de médiation en visio, donc on se pose beaucoup de questions sur la confidentialité, est-ce qu'il y a des personnes, est-ce que quelqu'un enregistre, est-ce qu'il n'y a
Ouais.
pas quelqu'un caché dans la chambre? Et bah, avec l'IA, on se pose aussi beaucoup de questions sur justement cette protection des données et la confidentialité, en médiation.
Oui, c'est pour ça que je dis, alors il faut vraiment, avec l'IA pour la protection des données, il faut vraiment une solution locale si on veut être sûr, ça c'est, je pense, indispensable, et sinon complètement anonymisé. Donc ça c'est possible. Et sans oublier, parce qu'en fait, il y a un cas qui date un petit peu, mais je crois que c'était un constructeur automobile, je crois. Je sais plus, j'ai plus exactement qui en tête. J'avais appris ça dans la formation que j'avais faite. Et donc, c'est un cas, quelqu'un de l'interne de l'entreprise qui a Il a téléchargé la stratégie confidentielle de l'entreprise, stratégie de développement de l'entreprise, donc quelque chose que tu veux surtout pas que ça sorte, pour utiliser l'IA pour dire comment on peut évoluer, qu'est-ce que voilà, pour voilà. Et puis ce qui s'est passé, c'est que l'IA, elle a utilisé ces données pour entraîner, parce que comme on disait, c'est un jeu de probabilité. Plus l'IA a des infos, plus elle peut détecter s'il y a ça, qu'est-ce qui doit y avoir comme résultat. Donc en fait, elle va tout utiliser, tout ce que tu télécharges, elle va l'utiliser pour alimenter la machine. Donc ça rentre dans la base de connaissances de la machine. Et donc cette personne-là, elle a téléchargé la stratégie interne. Et puis quelqu'un d'autre, dans une autre entreprise, il va poser des questions sur, je ne sais pas si c'est ChatGPT, mais elle a dit, en fait, nous, pour notre stratégie, comment tu penses par rapport à cela, etc. Et puis la machine a dévoilé
À
les
sortir.
confidentialités parce qu'elle les avait, puisque l'autre, elle a téléchargé, tu vois. Donc il faut faire énormément attention avec ça. Mais en même temps, il ne faut pas oublier, franchement, dès que tu envoies un mail, alors moi, je ne fais pas confiance ni à Microsoft, ni à Google, ni à tout ça. Après, certains outils, enfin, on va être con, tout le monde utilise les mails, bien évidemment, mais dès que tu envoies un mail, à mon avis, la protection des données dans le sens strict, vraiment, on n'est pas sûr. Dès que c'est quelque part sur un cloud, voilà.
Ouais, donc il faut repasser à la bonne vieille méthode du scellé. Et comme ça, on est sûr que personne ne voit, ne sait ni n'entend ce qu'on dit. Mais c'est vrai que c'est une question qu'on se pose beaucoup avec l'intelligence artificielle, alors qu'on utilise beaucoup les vidéoconférences, les emails, depuis combien de temps? Et voilà, bon, on a beau mettre attention si ce mail arrive pas au bon, n'arrive pas au bon destinataire, s'il vous plaît,
Ouais.
c'est confidentiel, ceci, cela, mais on ne sait pas comment
Bah, prenons Zoom là.
traiter.
Tu vois, Zoom maintenant, ils ont le compagnon Zoom que tu peux demander un résumé de la séance si tu l'as activé. Donc, ils ont la technologie qui nous dit que maintenant là, bon, là, c'est pas grave, c'est public de toute façon, on va publier la vidéo. Mais si tu as une séance Zoom en confidentialité, qui sait qui te dit que c'est pas suivi quelque part, que l'info n'est pas utilisée pour entraîner la machine? Moi, je ne
Même si
sais
on
pas.
n'enregistre pas, tu veux dire? Même si on
Même
n'est pas
si on n'enregistre
enregistré.
pas, oui.
Voilà.
Donc, je crois qu'on. Voilà. Je pense que ces entreprises-là vont quand même faire attention à ne pas avoir des scandales, parce que pour le marché, évidemment, ce serait terrible. Mais bah, on a eu assez d'exemples de ce type-là. Donc, il vaut mieux pas faire confiance, quoi.
Faire attention quand même avec tous ces outils. Et ne pas faire de se faire d'illusions aussi que on va être protégé à 100% et protéger nos données en fait. Des émotions dans tout ça. Est-ce qu'une IA peut vraiment retranscrire, capter des émotions
Oui.
comme un humain, quoi?
Alors pour choquer les auditeurs, je vais dire oui. Ce n'est pas dédié comme un humain. Évidemment, ce n'est pas un humain.
On est mal barré.
Alors non, je pense pas. Non, non, je pense pas qu'on est mal barré. Il faut utiliser l'outil à notre service. Mais pour la question, oui, alors je peux te lire, là, j'avais préparé une étude. Alors, c'est dans un article de Michael Lardy qui s'appelle Médiation IA, la révolution silencieuse, où il a repris d'autres études. Je vais juste lire le résultat. Hein, si quelqu'un veut aller les détails, il faut aller voir l'étude. Mais les phrases clés, c'est dès la première session, la capacité de ChatGPT à reconnaître et à décrire les émotions humaines dépasse celle des humains du groupe de contrôle. Lors de la deuxième séance, parce que la machine, elle apprend, cette capacité est encore meilleure. Et une autre étude qui dit ChatGPT obtient des scores exceptionnellement élevés par rapport aux humains, toujours par rapport à l'intelligence émotionnelle. Donc évidemment, c'est une machine, elle n'a pas d'émotion, mais elle peut les interpréter, elle peut même te les renvoyer. Moi, j'avais fait un test avec l'avant-dernière version de ChatGPT, je crois que c'est 4.0, le début de 4.0, où moi, jouais les parties, je dis, c'est tout par écrit, hein, je dis, moi, je joue partie A, partie B. Donc, j'illustre ça par grand A, grand B. Toi, tu joues le médiateur. J'ai donné une instruction. Le prompt, c'était. La vidéo, elle est en ligne. On peut mettre le lien. Elle a, je ne sais pas, trois, quatre ou cinq phrases. J'ai dit, tu es médiateur professionnel. Tu connais les règles, les cinq phases. Tu connais le rude feedback. Deux, trois phrases comme ça. Fais le médiateur, je joue les parties. Vraiment, cinq phrases. Et puis j'ai joué les parties. J'ai dit compte A, voilà, j'ai expliqué le conflit, comme quoi l'autre est méchant. Et puis vraiment, ChatGPT a capté l'émotion. Il dit, ah, je vous vois très remonté. Qu'est-ce que vous avez besoin maintenant? Des choses comme ça, comme ferait un vrai médiateur. Alors non, la machine n'a pas d'émotion, mais elle peut les simuler, elle peut les capter. Aujourd'hui, dernière phrase, je viens de discuter avec une amie qui travaille avec l'IA dans le domaine de la santé. C'était quoi? Je crois que c'est la prévention, je crois que des AVC. Ça, c'est de l'audio, l'oral, sur base d'un appel. L'intelligence artificielle, elle arrive à capter ton risque d'un AVC. J'ai entendu la même chose pour le burn-out. Donc, si tu parles, le ton de ta voix, le comment tu parles, c'est pas ce que tu dis, c'est pas les mots, c'est le son,
L'intonation, en fait,
l'intonation.
l'intonation qu'il.
Comme la machine, elle a des milliers, ou je sais rien, des millions, j'en sais rien, mais elle a beaucoup, beaucoup de données de comparaison. Elle dit, s'il y a ce schéma-là dans la voix, le risque d'un AVC est de, je ne sais pas, 90%. Alors qu'un humain, il n'y arrive pas. Il y a aussi des IA qui arrivent à voir, tu as les émotions, tu arrives à lire sur un écran. Et en fait, c'est ça ce qu'il faut, je pense, pour comprendre pourquoi c'est le cas, c'est que l'IA, elle est alimentée, entraînée avec des énormes quantités d'exemples. Tu vois? Donc, si tu as des
Oui.
milliers d'exemples de l'expression faciale, ça veut dire triste. Après, la machine, elle n'a qu'à comparer. En fait, elle ne fait que comparer. Hein,
Ouais. Donc, des capacités énormes, en fait. Et c'est l'impression comme un truc que tu nourris et qui grossit, en fait. Tu vois, plus tu vas nourrir, plus il va grossir, plus il va avoir des capacités que nous, peut-être, voilà, on pourra pas développer. Ce qui me fait venir à un point où vaut mieux en faire un allié, en fait, le maîtriser avant qu'il nous complètement nous envahit, ou je sais pas, c'est peut-être une vision très apocalyptique, mais il y a une peur, en fait, vis-à-vis de l'IA. Et je pense parce qu'on n'arrive pas, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas encore bien. Et est-ce que tu penses qu'il faut se former, qu'il faut essayer, qu'il faut vraiment s'y mettre pour essayer de maîtriser vraiment la machine plutôt que ce soit le contraire?
Oui. Alors peut-être première réponse, c'est il faut vraiment que le monde politique se charge de la question. L'Union européenne a fait une loi assez stricte, je crois assez bien. Après, voilà, les plus libéraux vont te dire non, non, il faut surtout pas empêcher le business, mais je crois qu'il faut plutôt protéger l'humain. Je crois que c'est la priorité. Donc là, c'est vraiment le monde politique qui a la responsabilité de protéger. Alors aujourd'hui, tu as des IA qui peuvent générer des nouvelles IA. Donc oui, enfin, le désastre, l'apocalypse, quand tu dis que certains désignent, il est théoriquement, je pense, imaginable. Tu as une IA qui génère une autre, et puis que ça devient automatique, et puis nous, on n'a plus rien à dire. Donc il faudra quelque part au moins maintenir l'accès à la prise. Alors là, je sais pas, là, c'est très technique, très politique, mais là, il faut protéger, ça, c'est sûr. Mais après, un autre niveau, je crois, un autre niveau d'utilisation ou de certains développements qui peuvent nous aider à nous simplifier la vie, je crois qu'il faut vraiment voir ça comme ça, comme outil, comme soutien, quoi. Après, il ne faut pas oublier, parce qu'on vous dit, ah oui, avec l'IA, vous allez économiser 8 heures de travail par semaine. Je pense, oui, c'est vrai. Sauf que les 8 heures que tu as gagnées, la plupart des gens ne vont pas aller passer dans la nature, ils vont plutôt faire autre chose. En fait, on ne va pas travailler moins, je pense. On va
Pour
être
mieux
plus.
faire, en fait. Faut surtout pas tomber dans ce piège-là.
Alors, ça, c'est le piège. Ouais.
Pour se nourrir aussi, quelque part, nourrir notre âme.
Oui.
dans l'excès de travail.
Donc oui, et puis peut-être encore, après, ce n'est pas pour faire de la politique, mais je crois que peut-être il faut ressortir une vieille recette politique sur ça, parce qu'il y a des boulots qui vont passer la trappe, ça c'est sans doute. Tout ce qui est un peu basé sur les règles, tout ce qui est informatique, financier, même beaucoup plus loin. On parle de, peut-être qu'on va tout à l'heure encore parler, est-ce que l'IA peut remplacer les médiateurs? Mais tout ce qui est technique, calculable, finance, même le droit, parce que le droit, c'est un code. Hein? La machine fait du code. Donc tout ça, alors je ne dis pas que ça va disparaître complètement, mais ça va disparaître en partie comme tâche pour les humains. Donc la vieille recette politique, à mon avis, qu'il faut ressortir maintenant, c'est le revenu inconditionnel, le revenu de base. Parce que il y a le risque, ça augmente, enfin, ça diminue les postes de travail. Après, on dit que oui, en fait, il y aura d'autres postes. C'est vrai qu'il y aura des postes dans l'informatique, la protection de données. Il y a beaucoup de nouveaux postes. Il y a beaucoup maintenant, si aujourd'hui tu es consultant IA, tu auras plein de boulot. Sauf que, je ne sais pas, quelqu'un, je sais pas, qui a 50 ans, un comptable, qui a appris à l'ancienne école, tu ne vas pas lui dire aujourd'hui de devenir consultant IA. Tu vois, la
Merci.
transition, elle est pas possible. Donc, il faut protéger l'humain. Et là, ça serait, voilà, une de ces idées, ça serait ben, il faut accompagner ce changement. Je pense que c'est vraiment, en fait, c'est une quatrième révolution industrielle, là, qu'on est en train de vivre.
Merci beaucoup Pascal pour cet échange. J'ai appris pas mal de choses. J'espère que vous aussi, hein, vous allez vous y mettre. Ça y est, on y est.
Si je me permets, Joël, juste la
Vas-y.
question pour conclure sur l'IA. Donc, elle va remplacer plein de métiers. Est-ce qu'elle va remplacer les médiateurs et les médiatrices? C'est un peu la grande question qui fâche. Alors, quand j'ai étudié les articles, les études qui existent là-dessus, en gros, alors la réponse est non.
Pour l'instant.
Parce Pour l'instant, oui. Alors, pour l'instant, c'est clair. Et puis, même aujourd'hui, déjà, personnellement, j'ai un autre avis. Je pense qu'il faut un peu nuancer la question. Probablement, tout ce qui est du très émotionnel, relationnel, tout ce qui est du familial, voisinage, là, parce que la question, c'est pas est-ce que la machine est capable. Elle est capable. Ça, on le sait aujourd'hui. La question, c'est ce que les humains vont accepter que ce soit la machine qui fasse. C'est ça la vraie question. C'est pas est-ce que la technologie est capable. Ça, on sait qu'elle est capable. Donc, personnellement, je crois que dans certains domaines, pour certains types de médiation, oui, la machine va nous remplacer. Parce que, tu vois, pourquoi je suis aussi fasciné par ce nouveau monde, ces nouvelles technologies. Moi, je revis un moment de prise de conscience quand j'ai appris la médiation. Parce que la médiation, c'est quoi? C'est accès beaucoup plus facile. Il y a moins de barrières, ça coûte moins cher, c'est plus simple, tu vois, par rapport à une procédure judiciaire, par exemple. Et puis ici, c'est comme ça, c'est comme on appelle les ADR, Alternative Dispute Resolution, donc les modes alternatifs à la résolution de conflits. Et là, c'est les ODR, les Online Dispute Resolution, en fait, qui vont exactement dans le même train. C'est plus accessible, c'est plus facile, c'est moins coûteux. Donc, pour les situations qui s'y prêtent, si tu as un business B2B, tu as une affaire avec une boîte en Chine, vous êtes en
Oui,
conflit sur un truc.
c'est efficace, c'est rapide.
Et puis, si je me permets de faire un peu de pub
Oui.
pour nous, donc on a développé un outil qui s'appelle Get Your Deal, donc
Pour les négociations, c'est ça?
pour les négociations. Ça peut susciter des négociations de conflit. C'est pas l'outil fait pas la médiation. L'outil, en fait, on met à disposition un négociateur IA pour chaque partie. Après, c'est l'IA qui négocie. Donc, ça protège la position de chacun.
Mais les vertus sont quoi? Alors, ils nourrissent cette IA, en fait?
Alors,
C'est eux.
chaque partie, alors tu peux l'utiliser soit en solo, ça veut dire toi, tu saisis ta position à toi et la position de l'autre partie. Tu peux faire ça pour des formations où tu as une idée sur la position de l'autre partie, tu la saisis. Et puis après, le reste, la machine, elle te fait, elle négocie. Après, s'il y a un résultat, il n'y a pas dans tous les cas, mais la majorité des cas, il y a un résultat. Tu as tout de suite le document Word que tu peux télécharger avec l'accord, etc. Si ça ne te convient pas, tu peux reprendre, tu peux dire, parce que tu peux suivre la négociation. Tu vois, partie A dit ça, l'autre dit ça, nanana. Tu peux dire, à partir de là, je veux que tu reprennes, mais avec telle et telle nouvelle information. Donc, il recommence la négociation à partir de là.
Jusqu'à ce que les personnes soient satisfaites en fait du résultat.
Voilà. Donc,
On
qu'est-ce qui.
n'est pas dans une posture de créativité quelque part. On ne crée pas notre propre solution, notre deal. C'est
Non.
la machine en fait, et on va venir soit accepter ce qu'elle nous propose ou refuser ou améliorer.
Oui, alors,
C'est
on est
parti.
100% d'accord. Ouais. Alors, si tu veux la qualité, le tout sûr, etc., il faut partir avec des médiateurs humains. On est d'accord. Maintenant, ce que je suis en train de dire, c'est que il y a des situations où tu peux utiliser un tel outil, tu peux l'essayer. Si le résultat te convient, eh ben, tu prends. S'il ne te convient pas, tu laisses et tu pars avec un médiateur ou tu pars en justice, où tu veux. Donc, mon avis, c'est que déjà aujourd'hui, pour certaines situations, la gestion des conflits peut passer sur de telles solutions. Donc, en fait, il faut. Oui, la recommandation aux personnes qui nous écoutent, c'est qu'il ne faut pas faire barrière, il ne faut pas refuser cette nouvelle technologie, il faut mettre un pas dedans, il faut commencer à l'utiliser. Prenez la version gratuite de ChatGPT ou d'un autre, hein, peu importe lequel, juste pour tester, juste pour voir, juste pour est-ce que ça peut être utile pour vous. Parce que finalement, c'est comme il y a, je sais pas, il y a 30 ans, tu dis non, non, les mails, ça ne m'intéresse pas, je refuse. Hein. Ou Word, tu disais non, non, moi, je ne vais pas utiliser de nouvelles technologies. Hein. On est un peu au même moment. Qu'en fait, c'est le défi de l'IA, c'est que souvent, à court terme, on surestime l'impact. Donc, il y a des gens qui disent ah ouais, ça va tout faire, et super, et puis voilà. On surestime complètement l'impact à court terme, mais on sous-estime à long terme. Et je pense sur ces prochaines années, alors déjà on voit comment ça va super vite. C'est pas demain que les médiateurs seront remplacés. Et je pense pour certaines médiations, ils seront peut-être jamais remplacés. Mais à long terme, il faut pas sous-estimer à long terme. Il faut pas surestimer à court terme, mais il faut surtout pas sous-estimer à long terme.
À long terme. Rendez-vous dans quelques peut-être temps, hein, Pascal, pour voir où on en est. Moi, j'aurais peut-être un petit peu plus d'expérience aussi dans le domaine. Moi qui ai résisté, résisté, mais là, ça y est, je mets un pied dedans, comme tu dis. Je suis ton conseil. Et je trouve pour l'instant, si je peux faire un petit retour d'expérience, que ça a ses limites pour moi. Voilà. Il y a toujours, en fait, la présence humaine est importante, intéressante et apporte beaucoup, non, énormément. Ça reste pour moi, comme tu dis, un assistant, un appui, voilà, qu'on peut modeler aussi à notre façon. Dans d'autres domaines, ça permet des avancées immenses, vraiment. Dans le domaine médical, tu parlais là, de détection voilà, des burn-out, des dépressions, même des cancers, et ainsi de suite. Ça, c'est une bonne chose hein, pour l'humanité, mais voilà, attention quand même. Faisons ça, prenons les choses à bras le corps, mais avec quand même beaucoup de précautions. L'éthique aussi qui est très importante et politique. Donc, affaire à suivre en tout cas, hein, Pascal. Merci
Absolument.
beaucoup, encore une fois, et à bientôt.
Merci Joël, à bientôt.
Pour ne rien manquer et pour nous soutenir, abonnez-vous à notre chaîne et partagez nos podcasts.